Voilà, je disais que Jésus avait une façon particulière d'aborder ses contemporains dans l'évangile de Luc, que l'évangile de Luc avait cet angle particulier. Et j'en ai pas dit plus parce que justement, la prédication aujourd'hui, c'est un peu une prédication programmatique. C'est pas moi qui annonce le programme, c'est Jésus, ou plutôt Luc, qui annonce le programme au début de son évangile. Et dans ce passage, c'est la première prédication de Jésus et elle oriente. C'est un peu une grille de lecture pour lire la suite de l'évangile. Mais trêve de blabla, on va plutôt écouter la Bible dans l'évangile de Luc, donc au chapitre 4. Évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié de tous. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue selon sa coutume, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance » et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Puis, il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Et il leur dit « Certainement, vous me citerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, selon ce que nous avons appris, fais-le aussi ici, dans ton pays. » Il leur dit encore, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, mais Naaman le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur lequel leur ville était construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. Jusqu'ici, notre lecture. Je le disais avant de lire, c'est le début du ministère de Jésus. Si vous lisez ce qui précède, on voit l'annonce de la naissance de Jésus, on voit sa naissance, on voit tout le ministère de Jean le Baptiste, le baptême de Jésus, sa tentation au désert, et là, le voici de retour. Il arrive, il commence son ministère, son enseignement. Et on l'a lu au tout début, il impressionne par cet enseignement. Et il va à Nazareth, la ville dont il est issu, le point de départ. Là où il a été enfant, c'est là qu'il commence son ministère. Et dans ce texte, il prêche, il lit le prophète Ésaïe. Et c'est intéressant, je disais que c'était un texte programmatique, sa première prédication. Donc ça oriente son ministère et c'est quelque chose qu'on trouve comme un fil conducteur dans l'évangile de Luc. Mais aussi, dans ce texte programmatique, on voit la façon dont, dont son ministère est reçu. Et on voit que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident et on voit que c'est chaud de la façon dont ça se termine. Et quand on lit, on peut se demander, mais pourquoi tant de haine? Quelle est la raison pour laquelle il y a une réaction aussi vive, une tentative de meurtre même? Donc on voit Jésus lire la parole, un texte du prophète Ésaïe. Et Ésaïe parle du serviteur. Le serviteur, c'est un personnage récurrent qui revient dans le livre du prophète. Quelqu'un qui sert Dieu pour faire du bien à son peuple. Le livre d'Ésaïe, c'est un livre long, c'est un livre touffu, pas forcément facile à comprendre. Moi, j'ai un peu de mal avec le livre d'Ésaïe. C'est un livre qui parle d'abord de jugement et de condamnation, parce que le peuple d'Israël à qui il était destiné n'était pas assez sérieux dans sa relation avec Dieu. Il faisait le culte, mais c'était un peu hypocrite, ça ne descendait pas au cœur, ce n'était pas sincère. Et ils mettaient leur confiance dans leur propre force pour lutter contre les armées de la région, en essayant de faire des alliances au lieu de se dépouiller, de ne faire confiance qu'à Dieu seul. Et ça fait des années et des rois que ça dure. Et là, avec Ésaïe, Dieu dit, c'est fini, vous allez être jugés, vous allez être déportés. Donc c'est un livre qui parle de jugement, mais qui parle aussi de restauration et de consolation. Consolez mon peuple, dit Dieu à travers le prophète Ésaïe. Et toute la deuxième partie du livre, c'est la promesse de cette restauration qui vient. Avec le ministère du serviteur, le serviteur souffrant qui va faire du bien au nom de Dieu. Qui est ce serviteur qui parle à la première personne? On peut penser que c'est le prophète lui-même, mais il fait des choses tellement grandes qu'Ésaïe ne les a pas faites. Et du coup, en lisant ce livre, il y a une attente. L'attente de celui qui doit venir. L'attente du Messie. Et justement, là, dans le temple, ce jour-là, après que Jésus ait lu le texte, soit qu'il se soit porté volontaire, soit qu'on l'ait désigné, eh bien, il y a une attente. Souvent, ceux qui ont lu le texte proposent un commentaire, qu'est-ce que ça leur a apporté. Et on aimerait bien que Jésus, qui est tellement apprécié, dise quelque chose. Et Jésus a cette parole, un peu mystérieuse, de dire « Aujourd'hui, cette parole est accomplie ». Quelle parole? Alors on regarde le texte, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a conféré l'onction, il m'a envoyé. Autrement dit, Jésus leur dit, c'est moi. L'auditoire est dubitatif. Les paroles sont belles, ce sont de belles promesses, mais c'est un enfant du pays. On le connaît depuis qu'il est gamin. Comment ça, c'est moi? Et ensuite, le ton monte, Jésus leur reproche leur crédulité. Et donc, il l'expulse de la synagogue, de la ville, menace de mort, et Jésus part. Il passe au milieu d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? À lire le texte, on a l'impression que Jésus les provoque un peu. qu'il leur fait un procès d'intention, il place dans leur bouche des paroles, vous allez me dire, fais les mêmes miracles qu'à Capharnaüm, un prophète n'est pas accueilli chez lui. Mais les récits parallèles dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc insistent sur le fait que vraiment, cette question que Jésus, ils le connaissent depuis qu'il est enfant, qu'il soit issu d'eux, c'est pour eux une occasion de chute. Ils n'arrivent pas à dépasser ça. Jésus, c'est un gars normal, on le connaît. Sans doute voudrait-il qu'il reste à sa place. Il fait des miracles partout, il peut en faire ici. Mais de là à dire qu'il est un guide, qu'il est le serviteur, celui qui va apporter la délivrance. Et Jésus pousse plus loin. Il leur rappelle, dans l'histoire biblique, les grands prophètes tels qu'Élie et Élisée ont dû se tourner vers l'extérieur de leur peuple pour faire certains de leurs miracles. Et en lisant ces récits dans le livre des Rois, on n'y prête pas attention, mais pour Jésus, ces miracles ont un sens. C'est parce que le peuple ne les écoute pas, parce que le peuple de Dieu n'écoute pas son Dieu qui a besoin d'aller guérir ailleurs. Et c'est aussi ce que dit Ésaïe. Le peuple a beau être choisi par Dieu, il ne l'écoute pas. C'est pour ça qu'il est condamné. Et c'est pour ça que le ton monte. Pour qui il se prend, ce gamin, de nous parler comme ça? On sait ce qu'on a à faire. Il est parfois difficile d'envisager qu'un autre puisse avoir une autre place que celle qu'on aimerait lui assigner, celle dans laquelle on aimerait le voir. Pour eux, ils ont du mal à imaginer que Jésus ait quelque chose à leur apprendre, qu'il puisse les guider. Pour nous aussi, je crois, c'est difficile. Quelqu'un issu d'entre nous, est-ce qu'il aurait quelque chose à apporter? Quelqu'un de plus jeune qu'on a connu depuis qu'il était enfant? Quelqu'un qu'on a toujours vu en étant son aîné? Rien que lorsque nous sommes ensemble, que nous discernons, que nous sommes en assemblée générale, est-ce que nous écoutons tout le monde? Y compris les plus faibles. Y compris ceux qui n'ont pas la parole facile. Y compris ceux qui sont arrivés plus récemment. Et pourtant, le Seigneur distribue ses dons à chacun et surtout il distribue ses dons à qui il veut. Mais je ferme cette parenthèse, notre texte nous parle de Jésus. Comment est-ce que nous accueillons Jésus? L'écoutons-nous? Je veux dire, l'écoutons-nous vraiment? Ou est-ce que Jésus n'est que quelqu'un dont on parle à l'église 2 heures tous les dimanches? Un personnage de la Bible qu'on peut refermer et ranger dans sa bibliothèque ou poser sur sa table de nuit? Est-ce que nous croyons qu'un homme, un des nôtres, quelqu'un qui partageait notre humanité, puisse être le Messie? Qu'il ait quelque chose à nous apprendre, qu'il puisse nous guider, changer radicalement nos vies. Et si nous l'écoutions? Je vais relire la parole d'Ésaïe qu'il a lue ce jour-là à Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Des fois, le hasard fait bien les choses. Ce texte-là, ce jour-là, et c'est à Jésus qu'on le fait lire. C'est peut-être pas un hasard. Dans ce texte, je l'ai dit, le prophète Ésaïe s'adresse à des gens qui sont captifs, qui sont en déportation, et il leur parle de rétablissement, de délivrance. On l'a déjà dit, dans ce texte, il y a une importance qui est donnée sur le mot « moi » qui est répété, « l'Esprit du Seigneur est sur moi ». Mais il y a aussi une mission qui est donnée à ce serviteur qui la reçoit. Pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer la délivrance, pour renvoyer libre, pour proclamer une année de faveur. C'est beau. C'est beau et on nous dit dans le texte que les gens apprécient la lecture de ce texte. Oui, après nos tribulations, un jour, le repos sera là. Ça fait du bien d'espérer, ça fait du bien de rêver. C'est beau, mais la question c'est pour qui cette promesse? Pour les pauvres, les captifs, les aveugles et les opprimés. Les aveugles, Jésus fera des guérisons, et ça tombe bien. Francis, justement, nous a conduit dans la louange à partir d'une de ces guérisons miraculeuses. Mais chez Ésaïe, l'aveuglement et la surdité, c'est aussi une métaphore de l'aveuglement spirituel, de la surdité spirituelle, de quelqu'un qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre. Les pauvres, ce sont ceux pour des raisons matérielles ou sociales ou religieuses, étaient exclus, marginalisés. Les captifs, si Ésaïe parle à des gens qui sont en déportation, les captifs, nous le savons aussi pour lire l'Évangile, sont captifs du péché. Et la délivrance, c'est le pardon du péché. C'est le même vocabulaire qui est utilisé ailleurs dans l'Évangile. Parce que le péché nous tient captifs. Il nous enferme, ce péché qui nous colle à la peau. Ce désir de gagner, d'être le plus fort, ce désir de faire par nous-mêmes sans écouter les conseils, ce désir de faire sans écouter Dieu. On a l'impression de choisir son chemin, de choisir ce qu'on fait, mais en fait, le péché nous enferme, nous emprisonne dans des comportements qui nous rendent malheureux et qui nous oppriment. Quand Jésus parle de la veuve bénie par la présence d'Élie, il parle de quelqu'un qui est pauvre. Quand il parle d'un lépreux guéri par Élisée, il parle d'un malade, quelqu'un qui est captif de sa maladie. Et si ces deux prophètes n'ont pas accompli leur ministère bienfaisant au milieu de leur peuple, c'est que leur peuple était fermé. Et les auditeurs de Jésus l'ont bien compris. Ils ont compris qu'il parle d'eux. Ils ont compris qu'il dit qu'ils sont pauvres, malades et captifs. Mais de quel droit il parle de nous comme ça? Qui est ce gamin pour nous dire de telles choses? Mais laissons là des contemporains de Jésus et interrogeons sur nous. Ce texte, je le disais, il est caractéristique du ministère de Jésus. Jésus vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs, rendre la vue aux aveugles spirituels, et il l'a fait. Et son peuple ne l'a pas écouté. Il l'a rejeté, il l'a tué. Mais nous, comment recevons-nous Jésus? Sa prédication est toujours la même. Sa mission reste identique à cela après que c'est à travers son Église qu'il l'accomplit aujourd'hui. Son Église qu'il équipe, à laquelle il donne les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres. Vous connaissez cette énumération que Paul fait dans l'Épître aux Éphésiens. Sa mission reste la même, mais est-ce que nous nous reconnaissons pauvres, captifs, aveugles? Ou est-ce que non, tout va bien, merci, j'ai besoin de rien? C'est une bonne idée de s'occuper de ceux qui sont pauvres, qui sont captifs, ceux qui sont aveugles, mais moi, ce n'est pas moi. Ou alors, oui, j'étais pauvre, captif, aveugle avant ma conversion, mais maintenant que je connais Dieu, ce n'est plus moi. Ce n'est pas pour vous, mais moi, j'ai beau avoir choisi Jésus-Christ, il y a bien des années, je lutte encore. Je me bats encore contre mon aveuglement spirituel, parfois des choses que je mets tellement longtemps à comprendre. Et j'ai besoin que le Seigneur m'ouvre les yeux. Je me débats encore avec mon péché, avec des comportements, des désirs qui veulent prendre le dessus et qui parfois y parviennent. J'ai besoin que le Seigneur me délivre. Et je vis dans la pauvreté. Je joue petit bras sans toujours me comporter comme un fils adopté, co-héritier des promesses de Dieu grâce à Jésus-Christ. J'ai besoin d'être restauré. Mes amis, si vous vous reconnaissez dans ces pauvres, ces aveugles, ces captifs, j'ai une bonne nouvelle. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus relève et il le fait encore aujourd'hui. Sa prédication n'a pas changé. Son œuvre n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui. Mais si vous ne vous reconnaissez pas dans ces catégories, des pauvres, des captifs, des aveugles, je crains que Jésus et que l'Église n'aient pas grand-chose à vous apporter. Jésus l'a dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. À la fin de notre récit, Jésus passe au milieu des habitants de Nazareth. Il passe, il part, il va ailleurs, il laisse ceux qui n'ont pas voulu l'écouter. Et j'aimerais, pendant que Dossol nous joue quelques notes, que nous prenions le temps de réfléchir. Est-ce que nous allons laisser passer Jésus? Ou est-ce que non? Nous allons l'agripper et dire, Seigneur, je suis pauvre. Je suis aveugle, je suis captif. J'ai besoin de toi. Viens me délivrer. Amen.